Les titres du journal.
Malgré un contexte très incertain, l'État du Valais investira comme jamais l'an prochain grâce à ses carnets d'épargne. Des fonds constitués ces dernières années. Objectif, soutenir l'économie et la population. Le tourisme viticole est en pleine expansion dans le pays. C'est le constat tiré hier au Château d'Aigle par les acteurs de la branche lors des 4e rencontres suisses de l'œnotourisme. Imaginez, il y a 15 ans, le quartier sous le Bourg a enfin vu le jour cette année. Il a été inauguré hier soir en présence des autorités de la ville et des participants au projet. Et en course à pied, le défi du Jora est de retour après une année blanche. La 33e édition de la course qui relie Eviona à Salanfe se tient en ce moment même pour une centaine de coureurs.
Un temps nuageux pour aujourd'hui avec quelques moments ensoleillés, mais un risque d'averse pour cet après-midi. On fait un point complet en fin de journal. Et le journal de midi, présenté par Isabelle Bertolini, bonjour.
Mais bonjour, même pas peur, alors que la crise sanitaire devrait priver l'État du Valais de 35 millions de francs de rentrée fiscale. Cette année, le chef du département des finances, Roberto Schmitt, a présenté hier un projet de budget 2022 ambitieux. Il est prévu d'investir près de 650 millions de francs bruts, c'est un record. Davantage d'argent devrait également aller à la population et aux institutions valaisannes, à travers notamment la réduction des primes d'assurance maladie, la prévoyance sociale ou encore la promotion des véhicules électriques. On parle là au total de plus d'1,5 milliard de francs. Le grand argentier Roberto Schmitt.
L'intention du Conseil d'État est claire, on ne veut pas faire un programme d'austérité malgré que la situation demeure incertaine à cause du Covid, de la pandémie. On veut plutôt faire un budget de continuité, ça veut dire on veut continuer à soutenir l'économie valaisanne et les institutions, les communes, les bourgeoisies, aussi la population à travers d'investissements et des subventions.
Mais est-ce qu'on a les moyens de cette politique ?
On a les moyens grâce aux différents fonds qu'on a créés, alimentés ces dernières 3-4 ans. Ça veut dire qu'on a plusieurs centaines de millions qu'on a pu mettre en défaut les années passées. Et puis maintenant, dans cette situation, on peut, pour le budget 2022, prendre 220 millions uniquement de ces fonds. Et je crois que c'est grâce à ces fonds qu'on peut maintenant investir et aussi augmenter les subventions.
Mais ce qui veut dire qu'en 2022, le Valais vivra légèrement au-dessus de ses moyens.
Tout à fait. Alors on prend plus des fonds que les années précédentes. Et effectivement, on vit un peu en dessous de nos moyens, mais on peut se permettre parce qu'on a ce cahier d'épargne, comme on dit, comme les privés, qu'on peut maintenant prendre l'argent. Mais c'est clair, ça dure quelques années. Alors maintenant, j'espère que l'économie va monter, va avoir plus de croissance et puis les recettes fiscales vont aussi monter pour, dans l'avenir, pas devoir encore prélever trop d'argent de ces fonds.
Roberto Schmitt répondait à nos confrères de RhônaFM. Le débat d'entrée en matière sur ce projet de budget 2022 de l'État du Valais aura lieu lors de la session de novembre du Grand Conseil. Philippe Rebord a reçu son prix Runzi. Le commandant de corps a été distingué hier à Sion. Une manière pour la fondation présidée par le conseiller d'État Frédéric Favre d'honorer celui qui a été le premier Valaisan nommé au poste de chef de l'armée suisse, mais aussi de souligner son action en faveur de la mise en œuvre de la réforme de la Grande Muette.
Depuis quelques années, le œnotourisme a évolué.
Surtout depuis le début de la crise sanitaire. Avec le coronavirus, le public a retrouvé le goût du tourisme plus local. C'est ce qui ressort de la 4e édition du prix et rencontre suisse de l'œnotourisme. Cette journée s'est déroulée hier au Château d'Aigle et c'est une façon pour les acteurs de la branche de réseauter, mais aussi de discuter du futur de l'œnotourisme. Et pour Frédéric Borloo, conseiller national vaudois et président de la Fédération suisse des vignerons, l'avenir réside dans le changement des habitudes.
Finalement, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ce œnotourisme ? On essaye de créer une sorte de réflexe. Que les gens se disent, ce week-end, cette semaine de vacances, je vais aller dans une région viticole. Pourquoi ? Parce que je sais que naturellement, il y a déjà un beau paysage, qu'il y a des belles maisons, ces maisons vigneronnes, ces petits châteaux, ces grands châteaux, etc. Et qu'il y a en général une histoire aussi. Une histoire humaine qui fait que tout ça a changé par la main de l'homme. Et puis, il y a de la convivialité. Et donc, c'est de créer ce réflexe, de dire, on fait quoi ce week-end, on fait quoi cette semaine de vacances ? Eh bien, on va dans une région viticole, parce qu'on sait qu'il va s'y passer quelque chose, parce qu'on y sera bien accueilli.
Aller chercher une expérience, dans le fond, de l'émotion.
Exactement, c'est une nouvelle émotion. Parce que tout le monde n'est pas vigneron, mais vivre à côté d'un vigneron, dans un vignoble, etc., pouvoir peut-être poser son camping-car dans un endroit magique, parce que les vignes, ben, ce sont des endroits magiques, eh bien ça, je pense que ça ne peut que attirer du monde.
Lors de cette journée, plusieurs domaines ont été récompensés pour leur offre touristique, dont entre autres l'abbaye de Sala à Aulon, qui s'est distinguée dans la catégorie artisan du terroir, un sujet de Léa Journaud.
Imaginé il y a 15 ans, le quartier Sous le Bourg à Aigle a été inauguré.
Situé à l'entrée du centre historique de la ville, le projet n'a pas fait que des heureux. Combattu à plusieurs reprises et même jusqu'au tribunal fédéral, il a finalement pu être terminé il y a quelques mois. Après des hésitations dues à la pandémie, les autorités ont décidé de marquer le coup hier soir en conviant les personnes qui ont participé à cette construction. Celle-ci comprend 150 appartements et une quinzaine de commerces. Le quartier Sous le Bourg densifie ainsi un centre-ville en pleine mutation. Et cela était nécessaire, selon Grégory Devaux, syndic d'Aigle.
Oui, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, c'est clair, et puis plusieurs partenaires, puisque plusieurs propriétaires de ces différentes parcelles, mais clairement, on sentait avec le départ à l'époque, effectivement, de la Migros, qui était dans le quartier de la gare à Novassal, dans la zone industrielle, la nécessité finalement de ramener de la vie en ville, de dynamiser ces formes de friches, hein, friches industrielles et espaces vides, formes de dents creuses au centre-ville. Et puis, ben, très vite, ces différents éléments permis de mettre d'accord les propriétaires pour se lancer dans un vaste projet urbanistique et puis mais qui puisse coller au mieux à l'évolution de la société dans les années suivantes.
Un sujet de Joël Espy. La Suisse prévoit de rapatrier quelques 80 malades du Covid de l'étranger, rapatriement urgent pour au moins 8 des personnes concernées. Le service sanitaire de l'armée en a informé les cantons hier. Le porte-parole de la conférence des directeurs cantonaux de la santé, Tobias Baer, a confirmé ce matin cette information parue dans les journaux du groupe Tamedia. Près de 40 de ces malades ont été infectés lors de leurs vacances dans des pays des Balkans. Amnesty International fête ses 60 ans d'existence, l'occasion pour l'organisation d'appeler à protéger les droits humains des générations à venir. C'était lors d'une réunion virtuelle de la section suisse d'Amnesty aujourd'hui. Le secrétaire général de la section a d'ailleurs appelé à lutter en faveur des personnes persécutées en raison de leur opinion, mentionnant l'Afghanistan.
En Afghanistan, justement, les talibans ont à nouveau reporté l'annonce de leur gouvernement ce matin.
Deux sources du mouvement islamiste radical ont prévenu l'agence France-Presse qu'aucune information ne serait diffusée aujourd'hui. Une des causes possibles, la situation dans le Panjshir, vallée anti-taliban. Elle est le théâtre de combat depuis lundi, jour du départ des forces américaines d'Afghanistan. Aux Paralympiques, la jeune niçoise Sofia Gonzalez sera sur la ligne de départ de la finale du 100 mètres à Tokyo, tout comme la Suissoise Elena Krater. Mais si elles ont battu leur record personnel, les deux femmes devront mettre les bouchées doubles si elles veulent monter sur le podium. Elles n'ont signé respectivement que les 6e et 5e temps des séries.
En course à pied, le défi du Jora est de retour pour sa 33e édition.
Annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire, la montée des Viona vers Salenf se tient en ce moment même. Le départ a été donné ce matin à 9h pour les quelques 100 participants. Des participants qui avaient le choix entre deux parcours d'intensité et de durée différentes. De quoi satisfaire un maximum d'adeptes. Pour ces organisateurs, la mise en place de l'événement a été un véritable défi entre incertitude et travail de balisage. Les précisions à ce propos de la présidente du comité d'organisation du défi du Jora, Mireille Saudan.
Moi, je pense qu'à partir du moment qu'on organise quelque chose, ça prend du temps, surtout pour bien le faire et puis pour que tout fonctionne. Le balisage, il est assez simple en soi. Bon, il y a quand même deux parcours, c'est quand même une certaine distance à baliser. Ce qui est dur à organiser, c'est plutôt les transports au niveau des départs. Et puis, on est encore dans une manifestation qui est en train de grandir avec de plus en plus de participants. Le but, eh ben, c'est justement de bien l'organiser, de bien la faire. Et puis peut-être aussi, il y a des nouveaux défis qui nous attendent dans le futur par rapport au fait qu'on grandit, on va dire.
Une centaine de personnes seront au départ demain, d'ailleurs, au niveau de ce chiffre-là, puisqu'on en parle. Il y a une progression intéressante, notamment après une année blanche.
Oui. Bon, alors en fait, on est sur les mêmes chiffres que nos deux dernières éditions. Simplement, les deux dernières éditions, on avait dû bloquer le nombre de participants pour des raisons d'organisation. Cette année, on s'attendait, on a trouvé que les gens, ils étaient très intéressés à le faire et puis qu'il y avait eu cette année blanche, on s'attendait à un peu plus de monde. Mais bon, on a le ressentiment que ce soit chez nous aussi dans les autres manifestations qui sont organisées cet automne, que les gens qui viennent sont contents, mais il y a aussi une partie de la population, je pense, qui a fait d'autres activités, qui n'est pas forcément entraînée, qui n'est pas encore prête à mettre un dossard. Donc on est sur les mêmes bases. on est content. Je pense qu'il y a beaucoup de manifestations aussi ces derniers temps. Il faut déjà être satisfait quand on arrive à une centaine de coureurs. Et puis après, on reste ouvert. Les inscriptions, elles sont encore ouvertes jusqu'à demain matin. On peut avoir de bonnes surprises avec la météo. Et puis voilà, puis après, j'insiste sur le fait que vraiment, pour nous, c'est important d'avoir des bons coureurs, des têtes d'affiche, etc. Mais aussi, on attend aussi le coureur populaire, celui qui n'est pas forcément très entraîné, ou celui simplement qui n'est pas grand sportif, mais qui se fixe vraiment un défi. C'est vraiment dans l'origine, en fait, de cette course, se dire, eh bien, moi, je monte jusqu'à Salenf à pied, et ça, c'est mon défi, même que je ne suis pas très sportif, même que je ne suis pas très entraîné. Et c'est vraiment l'esprit qu'on veut garder.
Un jour peut-être aussi pour nous, Jonathan. Mireille Saudon était au micro de Ludovic Turin. Ce 33e défi du Jora se tient donc en ce moment même entre Viona et Salenf. Une centaine de participants ont pris le départ ce matin à 9h.
Et bah, courage à tous les participants et merci Isabelle. On vous retrouve à 17h pour un prochain point sur l'actu.